Sandrine Martinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire d'exposition, on le rappelle, au sein de la Halle Jean Gattegno, au secteur d'art contemporain, qui accueille cette année, nous sommes d'ailleurs au cœur de cette exposition estivale, qui nous fait voyager, un univers assez singulier. Alors, l'artiste de cet été?
C'est une jeune femme, Marie Frier, qui vit et travaille dans la région, entre Creil et Valence, et qui a une pratique du dessin, mais alors il faut imaginer une pratique assez élargie du dessin, avec justement ces approches qui permettent, avec les moyens d'aujourd'hui, de penser le dessin sous des formes très très variables. Et on a une succession de salles comme ça, dans laquelle finalement se décline cette technique, avec des approches traditionnelles, comme un travail sur du papier à carreaux qu'on peut avoir à l'école et sur lequel elle travaille avec un stylo feutre, jusqu'à une pratique qui utilise la technologie de la vidéo.
Alors, un univers qui aborde les objets du quotidien pour ensuite mieux s'évader, hein, c'est un peu l'esprit de cette exposition qui présente, en fait, par l'intermédiaire de dessins, effectivement, avec toujours un fil conducteur, vous allez nous le préciser. Eh bien, en fait, un voyage qui, tout doucement, au fil des salles, hein, s'approfondit.
Oui, alors c'est vrai que on parlait du fil conducteur technique qui était le dessin. Il y a aussi ce fil conducteur, cette présence de l'animal et de l'oiseau en particulier, qui nous emmène comme ça, voyager d'une salle à l'autre et d'un univers à l'autre. Parce qu'effectivement, cet artiste nous parle aussi bien de l'extérieur, avec notamment, par exemple, une forme de dessin qui est de l'impression sur jet d'encre, donc à partir d'une technique qui est celle d'un travail direct sur ordinateur avec une palette graphique, donc un dessin finalement qui se crée par l'informatique, mais qui dans le résultat est assez singulier, puisque finalement on n'arrive pas trop à savoir, hein, quand on va pas regarder le cartel pour voir la technique, on se demande comment c'est fait, on sent une espèce d'aplat, et puis en même temps, grâce au logiciel très perfectionné, il y a quand même la sensation du grattage, etc. Donc voilà, par exemple, dans cette technique, il y a un dessin qui présente une espèce de road movie à travers des ronds, donc un travail extérieur, et puis à l'inverse, un regard donc sur l'extérieur, sur le paysage, et puis à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, ce travail sur dessin papier quadrillé, où là, on est plutôt dans une forme d'intimité, puisqu'elle se sert de ses pieds comme viseur, et du coup, on l'imagine, puisqu'on ne la voit pas, hein, puisque c'est toujours elle qui dessine, on l'imagine se laver les dents, conduisant, manger, etc. Il y a cette espèce de rapport à l'intimité, et puis en même temps, toujours cette ouverture vers l'extérieur, qu'on voit donc à travers ce travail dont je viens de parler, et puis aussi d'une succession dont on n'a ici qu'une partie, puisque bien évidemment, on a fait des choix, de paysages qu'elle a représentés lors de voyages, notamment dans les pays de l'Est. Donc il y a comme ça un jeu. Alors voilà, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas juste un regard, soit sur l'extérieur, soit sur l'intérieur, mais un peu tout ça, avec quand même cette réflexion régulière sur l'animal, sur le rapport entre l'homme et l'animal, sur l'animalité qu'il y a chez l'homme et sur ce qu'il peut y avoir d'humain chez l'animal. Voilà un petit peu ce qu'on... ça serait un grand résumé, hein, parce qu'il y a aussi plein d'autres approches et bien sûr des références aussi à l'histoire de l'art qu'on peut voir comme des clins d'œil un peu.
Donc une déclinaison aussi par rapport à ce travail d'exposition, on se sent vraiment dans la peau de l'artiste, hein.
Oui, c'est vrai. Alors aussi, le propre à la Halle, c'est que les artistes peuvent expérimenter. Et là, par exemple, elle avait très envie de créer un dessin grâce à du papier. Donc, elle a joué comme ça, et on le voit dans la première salle. En fait, c'est la première œuvre qu'on voit en arrivant par l'entrée principale. Un bulldozer réalisé avec simplement des feuilles de papier rectangulaires blanches, assez petites, un peu plus grandes que des post-it, qui sont punaisées avec des punaises transparent, très léger. Donc on a, quand on arrive, cette représentation d'un bulldozer qui est vraiment un engin massif, hein, dont on imagine presque le bruit, pas à l'échelle 1 mais pas loin, hein, un petit bulldozer c'est qui pourrait être à l'échelle 1, et là cette espèce de rapport à la légèreté, à la fragilité aussi, et puis je crois aussi ce paradoxe entre le fait d'utiliser pour trait, parce que finalement on a une représentation, on a un dessin, mais d'utiliser ce qui est habituellement de l'ordre du support, support, donc ce papier blanc sur lequel normalement on dessine et qu'elle, elle utilise pour dessiner. Et il y a ce jeu comme ça, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est permanent dans son travail, c'est-à-dire de toujours dire des choses, d'obliger à la réflexion, et puis d'être aussi toujours dans une forme de légèreté, de petit sourire. Hein. C'est, oui, puis oui. C'est quelque chose qui lui ressemble, ce petit sourire en coin, comme ça.
Oui, on ressent un humour au voilà, fil des œuvres qui est bien présent, un peu, des fois sarcastique aussi, mm-hmm. un petit peu. Alors, donc, on est dans la première salle qui présente de nombreux dessins. Ça peut être simplement du monochrome, aussi, il y a de la couleur. Et puis, donc, cet oiseau que l'on commence à percevoir et qui va nous tenir compagnie hein, au fil de cette exposition.
Oui, tout à fait. Il y a un oiseau dans cette première salle. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est particulier, puisque sur fond bleu, avec une espèce de vert jaune, on peut le qualifier de corbeau, hein, sans trop prendre de risques. Et ce qui est étonnant, c'est ces espèces de yeux hallucinés, un peu comme ça. Il y a une espèce de regard halluciné qu'on va retrouver dans ces masques, qui effectivement, comme vous le disiez, sont en monochrome. Donc, on a sur l'un des murs toute une série de dessins qui sont là en sérigraphie, hein, c'est-à-dire une technique qui utilise la soie comme méthode de reproduction, avec un dessin donc très précis, très fin, toujours humoristique. Et ces petits cadres comme ça, qui utilisent des animaux, qui portent des masques. Et quand on sait que le masque, c'est quelque chose normalement qui sert à se cacher derrière, alors que là, on reconnaît parfaitement tous les animaux. Hein, donc, c'est d'ailleurs très amusant avec les enfants de décrire les animaux. Et là, il y a cette espèce de question aussi, comment justement le masque qui habituellement cache l'humain redonne de l'humanité à ces animaux et nous oblige à les regarder un peu différemment. Et puis, bien sûr, il y a toujours ce moment un peu plus sérieux, un peu plus questionnant, qui est le personnage, l'icône du catholicisme, qui est Jésus-Christ, qui lui aussi porte un masque. Donc voilà, il y a aussi cette question de la représentation et de qu'est-ce qu'on cache derrière, avec aussi, pour l'avoir expérimenté avec des groupes d'enfants, hein, puisqu'on reçoit des groupes scolaires ou centres de loisirs, qu'aujourd'hui, l'icône du Christ n'est plus si évidente à trouver.
Alors, on le rappelle, art contemporain, ça ne signifie pas inaccessibilité. Bien au contraire, justement, la halle a donc fourni vraiment un intérêt pour vraiment chacun s'y retrouver finalement et comprendre. On a chacun nos propres références et ça nous suffit pour se retrouver au cœur de cette exposition.
Oui, oui, complètement. C'est vrai que on essaye à la fois d'être dans une programmation pointue qui est représentative de ce qui se fait aujourd'hui en art contemporain, sans nécessairement aller chercher de la difficulté ou des choses inaccessibles. C'est vraiment soit par l'intermédiaire de la thématique, soit par l'intermédiaire ici de la technique, qu'on a une approche qui peut être vraiment directe. Après, effectivement, comme là le travail qu'on a sous les yeux, que nos auditeurs ne voient pas, mais qui est une succession de 5 images qui jouent sur la question de la mort, du minotaure, du squelette, avec vraiment le squelette qui prête son slip à un minotaure. Donc quelque chose d'assez joyeux, sans référence, on peut très bien juste s'amuser comme ça, avec ces têtes de crâne, ce squelette qui a l'air de rigoler avec le minotaure. Et puis derrière, on peut aussi retrouver toute la référence du minotaure et toute la mythologie du minotaure. Et puis un clin d'œil aussi à Picasso, parce que la tête du minotaure ressemble à ce qu'a pu représenter Picasso, la manière dont Picasso représentait le minotaure à un moment donné. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que sans avoir la référence histoire de l'art, on se fait plaisir, on s'amuse, c'est drôle, c'est beau aussi. Hein, il y a vraiment un dessin précis et assez fascinant. Et puis, si on est un peu plus penché sur l'histoire de l'art, on peut aussi trouver cette référence-là et se faire plaisir avec ça.
Ça fait quand même une surprise hein, quand on arrive dans la deuxième salle par rapport à la première d'un point de vue plastique déjà, parce qu'on a tout à fait les mêmes matériaux. Et puis aussi peut-être un peu la signification du sens de l'exposition.
Oui, alors en même temps, le paradoxe, c'est qu'effectivement, on sort d'une salle de dessin où tout est au mur pour arriver dans une salle où on se retrouve face à un tronc d'arbre sur lequel est reconstituée une roue. Et sur ces roues sont posés ou suspendus, voire pendus, des corbeaux noirs. Et en face, tout proche du mur, est posé un corbeau blanc, inversée. Hein. Donc il y a. Alors c'est vrai que lorsqu'on arrive, on peut être surpris. En même temps, il y a quelque chose d'essentiel dans cette salle-là, qui est l'ombre portée de tout ce que je viens de décrire et qui crée aussi un dessin. Donc on retrouve quand même ce dessin qui finalement, l'ombre devient presque plus importante que le volume. Et c'est dans le dessin qu'il y a quelque chose qui se passe et le volume semble sortir du dessin. Et donc là, on a le lien avec la première salle. Et puis il y a ces fameux oiseaux aussi hein, qui sont là, donc qui étaient hallucinés ou drôles dans cette première salle, qui là effectivement deviennent... un peu plus angoissant, un peu plus symbolique. Alors après, pareil, selon l'âge, hein, on pense évidemment à Hitchcock, hein, cette espèce de rapport à l'oiseau très angoissant, à l'animal, hein, à cette force de l'animal. Et puis, il y a aussi tout ce rapport au mât de Cocagne, qui était à la fois un lieu où on s'amusait, on s'amuse toujours, hein, il y a des endroits où on continue à monter sur des mâts de Cocagne pour aller chercher un jambon, un saucisson. Et puis, en même temps, ces mâts étaient aussi, et on le voit très bien chez Bruegel, donc là encore un petit clin d'œil, à l'histoire de l'art, était aussi l'endroit où on pendait les gens. Hein. Donc il y a toujours cette ambivalence, et ça c'est assez symptomatique de son travail. On peut s'amuser, on peut juste rire, puis derrière il y a quand même quelque chose qui ramène à une réalité qui voilà n'est pas nécessairement drôle. Donc cette seconde salle, elle est surprenante, c'est vrai. Elle a été vraiment faite pour ici. Hein. C'est un peu comme le bulldozer. Hein. C'est la première fois qu'elle expérimente ça. Elle le fait là. Bien sûr, on va le détruire. Ça ne l'empêche pas de le refaire ailleurs. Là, c'est un peu pareil. Mais en plus, ça s'est transformé au cours du montage, pendant la semaine qui précédait l'exposition. Elle avait une idée. Ça ne marchait pas nécessairement. Donc voilà, c'est changé comme le tronc d'arbre. Vraiment, c'est venu ici en disant « Non, il me faut un vrai tronc d'arbre ». Et c'est vrai que ça donne, ça questionne un peu sur où est-ce qu'on est là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Surtout dans un endroit plutôt plus confiné que la première salle, finalement, on est plus...
Oui, hein, c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est qu'on rentre dans quelque chose qui s'éloigne presque de la nature, hein, puisqu'on s'enfonce de plus en plus vers la grotte. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui apparaît. C'est vrai qu'on est mis dans une situation un peu angoissante quand même. C'est pas une salle nécessairement agréable, mais elle pose des questions, voilà, sur l'envers, l'endroit. Elle fait penser à des caves aussi antiques. Enfin bon, il y a finalement aussi, encore une fois, beaucoup de références, mais on peut se faire plaisir ou, en tout cas, se poser des questions juste comme ça. Et encore une fois, pour avoir fait des groupes avec les enfants, ils voient beaucoup de choses hein, sur le blanc, le noir, le négatif, le positif, l'inversion, puis cette ombre omniprésente qui est là.
C'est donc une salle de transition aussi hein, qui permet d'accéder à la troisième salle. Alors donc, c'est j'imagine, aussi fait de manière à ce qu'on passe dans cette salle avec les corbeaux pour après ensuite arriver dans un autre univers.
Oui, c'est vrai qu'on a un parcours. Hein. De toute façon, une exposition, ça se pense toujours en termes de parcours. Et la première salle, pour moi, sert toujours à découvrir un peu l'univers, à être à l'aise, à commencer à comprendre un petit peu de quoi il s'agit, pour aller de plus en plus vers quelque chose, parfois de plus difficile, en tout cas qui entre plus, qui oblige plus à comprendre jusqu'où l'artiste veut aller. Et dans cette troisième salle, on l'entend, je l'espère, il y a à la fois donc une vidéo et avec un dispositif particulier que je vais décrire et du son. Et le son est vraiment quelque chose de très important pour Marie Frié, qui est à la fois musicienne et compositrice. Et ici, donc, elle a mêlé tout ça. Donc, il faut imaginer lorsqu'on rentre dans cette troisième salle, qui n'est pas une salle très très grande, une estrade sur laquelle on peut se coucher. Et lorsqu'on est couché, une image est projetée dans un élément concave, une espèce de coque concave, et donc on découvre une vidéo. Et il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes là. Il y a d'abord le fait, la posture du spectateur, puisque exceptionnellement on est allongé, hein, donc dans quelque chose de beaucoup plus relaxant. Donc ça aussi, j'aime ça, l'idée que on peut regarder de l'art contemporain tout en n'étant pas nécessairement dans une attitude sérieuse, et que on peut être comme ça dans une délectation relaxée. Et l'artiste vraiment veut ça. Hein. Pour elle, ce travail-là, c'est une espèce de rêve éveillé dans lequel elle présente. On retrouve l'ensemble de son travail. Donc on retrouve des dessins qu'on a vus au préalable, on retrouve l'oiseau hein, qui nous emmène d'un voyage à un autre. Et puis vraiment, dans cette idée de rêve réveillé, il y a cette idée qu'il y a une sorte de continuité, puis en même temps, bah, on part sur plein d'histoires. Donc il y a un astronef qui arrive, parfois il y a des photos qui ressemblent à des choses qu'on connaît, et puis tout d'un coup, il y a des espèces de pingouins géants. Enfin voilà, Tout est là, l'animal, les pieds, l'oiseau, ce son. C'est aussi cette couleur, parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de couleurs. En même temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans son travail. Et souvent, c'est des aplats de jaune, vert, et qu'on retrouve ici aussi. Donc, on est parfois dans une espèce de soleil illuminé. Et en tout cas, c'est une pièce donc, qui, bien évidemment, qui a été produite au préalable dans le cadre d'une exposition organisée par l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, donc, qu'elle peut ensuite présenter ailleurs, hein, parce que c'est un dispositif assez coûteux que nous, on n'aurait pas pu se permettre, mais qu'on peut du coup accueillir et qui, ici, prend une place spéciale puisqu'il est seul dans une salle. Et c'est vraiment comme ça que l'artiste le voyait.
C'est vrai que l'infrastructure de la halle permet de faire des expositions multidimensionnelles par rapport aux besoins des artistes. Ça, c'est quelque chose qu'ils doivent apprécier d'une manière générale.
Oui, beaucoup. Hein. C'est vrai que bon, moi, je leur présente toujours très vite nos petits moyens financiers, mais ils me renvoient aussi souvent et puis les contraintes, hein, du lieu. Donc, je leur dis très très vite de quoi il s'agit. Mais eux sont assez fascinés justement par aussi la diversité des salles. D'abord, finalement, ça fait un espace assez conséquent, puisque sans parler de l'auditorium, il y a 150 mètres carrés, donc avec l'auditorium qui est aussi qu'on va aller découvrir ensuite, qui est aussi un lieu ouvert depuis 3-4 expositions et qui permet aux artistes de présenter tout ce qui est vidéo, diaporama, film. C'est vrai qu'ils apprécient, ils me disent à quel point aussi le fait d'avoir des espaces si différents leur permet de jongler avec leur travail, de aussi penser des œuvres spécifiquement pour le lieu.
Le nom médiathèque, finalement, parle véritablement bien le principe, hein, de oui, ces différentes successions de médias. Alors, on peut rappeler, on peut noter que finalement, cette forme concave, là, nous projette vraiment dans l'image. C'est vraiment assez incroyable, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, finalement, une image concave qui nous emmène bien.
Oui, oui, c'est vrai que du coup, on se retrouve dans l'image. Hein. On est enveloppé. Et c'est une vidéo qui tourne en boucle, qui dure 10 minutes, qu'on peut regarder d'ailleurs inlassablement. Il y a des gens qui restent très longtemps, hein, plusieurs fois, parce que comme l'image va vite, il faut imaginer ça comme un film d'animation. Hein. Donc c'est un film d'animation, on entend bien, musical. Et effectivement, la forme concave fait qu'on est pris dedans. Et il y a quelque chose d'enveloppant, et on se laisse aller. Et il y a quelque chose de plus fascinant que la télévision, parce que, bon, en dehors de la forme particulière, hein, par rapport à la télévision, il y a cette posture comme ça, allongée, de regarder en l'air ce qui se passe.
Et puis ce son qui, en permanence, nous entretient dans un univers vraiment bien singulier. Hein. C'est admirable. Après la dernière salle, donc, nous emmène sur le même type de média, mais peut-être plus traditionnel.
Oui, voilà, on se retrouve effectivement dans une posture plus classique, puisqu'on rentre dans la salle de cinéma et on peut s'asseoir sur des sièges et regarder, alors pareil, une petite vidéo qui tourne en boucle et qui a été faite par l'artiste pour cette exposition. Hein. Bien sûr, elle le présentera ailleurs, mais elle l'a fait, là, elle l'a terminé une semaine avant l'exposition. Donc là, on est dans quelque chose à la fois d'un peu plus ludique, rapide, hein, comme un tout petit dessin animé, en même temps qui souligne les dangers possibles. Hein. À un moment donné, on voit une succession de mots qui changent comme ça. On change juste une ou deux lettres et on a des mots... danger, on passe à tirer, cancer, manger, etc. Et puis toujours ces éléments qu'on retrouve, le masque, l'oiseau, et un jeu comme ça, c'est-à-dire que chaque petit élément en devient un autre. Il y a une espèce de fil comme ça où on joue. Donc le masque jaune se transforme en fusil, et le fusil se fait disparaît grâce à l'oiseau qui avait pourtant une tête de cible, mais qui est plus fort que le fusil. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez différent finalement de ce qu'on vient de voir, qui a un travail sur du long terme, qui intègre plusieurs parties de son travail. Là, on a un petit film d'animation assez joyeux qui parle quand même du danger de l'armement, hein. Et puis l'animal qui à un moment met un masque, le fameux masque qu'on voyait tout à l'heure, et qui finalement en perd la tête, hein. C'est-à-dire que de devenir humain, loi en perd la tête. Puis on entend. Alors là, il y a un son qui est vraiment très calé, calqué sur l'image, ce qui n'est pas le cas dans l'œuvre précédente où elle a vraiment pensé les choses de façon autonome et elle les a mis ensemble à un moment donné. Alors qu'ici, il y a vraiment un jeu direct comme un dessin animé.
Donc, de même manière que la salle précédente, ça tourne de manière permanente en boucle.
Oui, voilà, ça tourne en boucle et on sent que la fin de l'histoire relance le début, hein, puisqu'on a une espèce de ballon qui devient une tête et du coup, on retrouve un peu la tête que Loa a perdue à la fin de la précédente image. Donc là, il y a vraiment une idée de boucle. Dans l'autre cas, c'est pas vraiment l'histoire ne se continue pas ou effectivement ne s'arrête jamais. C'est la même chose, on peut le regarder indéfiniment et se laisser aller comme ça dans ce rêve éveillé. Là, on n'est plus dans le rêve éveillé, hein. On est dans quelque chose qui nous parle et qui correspond à des images qu'on connaît plus sur le petit film d'animation.
C'est une artiste complète, hein, quand même, hein, puisque outre la vidéo, donc elle son aussi, elle aborde vraiment tous les médias. Elle est curieuse, cette Marie Frier.
Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en tant que personne assez discrète et qui finalement va sur des tas de domaines avec de nombreuses références et qui s'est investi dans cette exposition complètement. Je la remercie et du coup, ça crée. Une exposition très cohérente dans laquelle on se déplace comme ça assez logiquement. Mmh. Vraiment quelque chose qui est pensé. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même 3 œuvres créées spécifiquement pour l'expo. Hein. Donc celle devant laquelle on est, la petite vidéo, l'arbre au corbeau et puis le bulldozer. Donc ça aussi c'est assez plaisant pour une commissaire d'avoir un artiste qui s'investit comme ça dans une exposition et qui crée spécifiquement. Et pour les visiteurs, c'est se dire, bah, c'est la première fois que c'est là.
Parce que c'est vrai, il y a la création des œuvres et puis ensuite bah, l'adaptation au lieu, ce qui n'est pas moins une autre création aussi, un processus artistique à part entière, hein, s'adapter au lieu pour mieux mettre en valeur ses œuvres.
Oui, oui, oui. Et puis en plus, je trouve que c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire se dire, bon voilà, j'ai un travail, mais je tiens compte aussi de là où je suis. Et je crée en fonction. Et ça, j'apprécie beaucoup. Parce que pour moi, c'est aussi ça, quoi. C'est à la fois une forme d'intelligence et de liberté.
Une exposition donc estivale que l'on peut voir d'une manière donc permanente presque tous les jours.
Alors, aux horaires d'ouverture de la bibliothèque, donc les mardis et vendredis de 16h à 19h, les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. Et puis, durant l'été, donc jusqu'à fin août, nous ouvrons aussi les dimanches après-midi de 15h à 18h. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, sur rendez-vous, hein, moi, je suis vraiment aussi ouverte. Cet après-midi, par exemple, je reçois des centres de loisirs. Donc voilà, il y a aussi possibilité de se rencontrer sur d'autres moments, mais sur rendez-vous pour que la porte soit ouverte.
Donc, tout l'été, cœur la halle, puis au début aussi la rentrée, on pourra encore la voir jusque quand exactement?
Jusqu'au 23 septembre. C'est vrai que j'essaye de laisser toujours ce temps-là, début septembre, pour que aussi éventuellement, si des classes aient envie de venir ou de revenir, bon là, il y en a pas mal qui sont venus fin juin, mais c'est aussi ce moment-là. Et puis parfois, l'été, on est trop occupé, donc début septembre, on a ce temps-là pour aller voir une exposition.
Sandrine Martinet, merci.
Merci à vous.